Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 19 juin 2023. Et comme tous les soirs, tous les lundis à 7h06, c'est-à-dire 20h, eh bien, on joue la prolongation. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission préférée du lundi soir, avec son générique formidable de mon ami Pierre Marcel, que je remercie tous les soirs, tous les lundis en tout cas.
Alors, non, tous les soirs.
Tous les soirs, mais le reste du temps vous le savez pas, mais je le remercie. Ce soir avec moi, oui, vous le reconnaissez au jingle, sa musique qui est tout à fait... Qui définit musique, un homme de musique, un homme de plein d'autres choses. Il va nous apporter son sens de l'analyse de ce qui se passe sur, en dehors du terrain. Et puis en cette période où le football de club est au repos, il se passe toujours quelque chose en dehors du terrain. Et donc on sera ravis de t'écouter. C'est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu?
Salut Sam. Post-match, on va dire.
Ah, tu vas nous parler de... Oui, parce que toi, le football s'arrête, les compétitions continuent, et toi, tu continues d'être attentif à tout ce qui se passe, et tu étais, je crois, de l'autre côté de la frontière pour suivre cette formidable compétition dont on reparlera, la Ligue des Nations. On devait avoir Blaise, il va peut-être venir, je pense qu'il s'est caché parce que... Blaise, pour tout vous dire, c'est le supporter de l'OM et en ce moment, il est un petit peu, il se cache un peu. Cela dit, il partage son club de cœur, partage avec le mien quelques points communs, dont le principal, la nullité de ses dirigeants. Alors, c'est pas étonnant s'il y a 2 semaines de la reprise de l'entraînement à la commanderie, on n'a toujours pas de capitaine à la barre du bateau phocéen. Et s'il vient, ce sera super, sinon on cassera du sucre sur son dos. On l'attend peut-être en studio. À part ça, on a surtout un invité et on est très content de l'avoir avec nous en studio. Il s'appelle Thomas Otuszewski. Il est l'ancien entraîneur de la section féminine de l'Union Saint-Gilloise et il a un palmarès et des statistiques qui peuvent rendre jaloux pas mal d'entraîneurs de tout type de section masculine comme féminine, puisque Thomas, bonsoir déjà.
Bonsoir.
Thomas a été champion 3 années de suite.
Deux années.
Et il a quasiment 100% de victoire. Il y a eu une petite glissade, il y a eu une petite défaite, mais on en reparlera. Je demanderais juste de t'approcher un peu du micro ou d'approcher le micro. Mais en tout cas, on est impatient de bavarder avec toi. Et on va parler bien évidemment de football féminin, puisque vous le savez peut-être. C'est ça le mot peut-être est justement assez bien choisi parce que on en parle, on en entend parler, mais on le regarde pas beaucoup. Le football féminin existe et bel et bien, et il va y avoir la Coupe du Monde de football en 2023 cet été, donc dans un mois et demi à peu près, et elle va se dérouler aux Antipodes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc on va parler du foot féminin en général, de la Coupe du Monde féminine qui s'approche. Mais on va pas parler que de ça, on parlera également de l'actualité avec les qualifications à l'Euro 2024, on dira quelques mots, et la Ligue des Nations également, dont la phase finale s'est achevée hier par la victoire de l'Espagne. On en parlera avec Alex, qui a été un spectateur attentif de ce match qui a permis de voir quelques pénaltys tirés avec vraiment les... Ils avaient mis ce qu'il fallait dedans. Ils avaient eu,
Fais-toi plaisir.
Voilà. Enfin, en tout cas, il y a eu du sang-froid, beaucoup de sang-froid et des jolis pénalties. À part ça, les matchs, bon, on en reparlera tout à l'heure, c'était pas forcément le plus.
Dernier match de la saison, je pense, après.
C'est ça.
Très très longue saison qui a commencé très tôt, qui a eu une Coupe du Monde.
Exactement.
Pour la Croatie, en plus, encore plus longtemps.
C'était.
L'Espagne.
C'était effectivement peut-être la bouchée de trop, mais il fallait bien la jouer. Et puis on va se pencher, si on a un peu de temps, sur une compétition qui va débuter cette semaine et qui ravira sûrement les amateurs de Football Manager, de Sorare, de tous les et tous ceux qui aiment découvrir les stars de demain avant tout le monde. Le championnat d'Europe Espoir qui va débuter avec la Belgique notamment, qui affrontera mercredi soir les Pays-Bas en ouverture de cette compétition. Et puis on aura la minute Sportimize bien sûr avec toi Alex. Est-ce que tu peux nous dire d'ores et déjà ce que tu as prévu de
On va parler de droit streaming.
De droit streaming. Ah bah ça c'est une.
On ne peut pas en dire trop.
On va pas en dire trop. Eh ben écoute, on super. Eh ben écoute, on est ravis. Eh ben on va commencer. On va donner tout de suite le coup d'envoi. Et voilà, le coup d'envoi. C'est parti. On est donc avec toi, Thomas Otuchevski, ancien coach de la section féminine de l'Union Saint-Gilloise, un club avec lequel tu as vécu une magnifique aventure, une aventure pleine de succès, comme je disais, puisque tu as remporté 2 titres consécutivement, plus la coupe, me semble-t-il. Et alors ce soir, je vais prendre un petit peu un costume de candide, essayer de poser les questions que nos éditeurs se posent sûrement sur le foot féminin, puisque finalement, il y a une exposition qui croît, hein, bien sûr, mais qui est tout de même pas encore ce qu'elle pourrait être. On va se demander pourquoi. On va se demander un petit peu à quoi. On va faire un petit tour d'horizon de ce qu'est le football féminin en 2023 en Europe et dans le monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander quel est ton parcours et comment est-ce qu'on devient entraîneur d'une équipe féminine. J'irais même plus, toi, tu es entraîneur, mais c'est toi qui as fondé la section féminine de l'Union Saint-Gilloise.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, à l'Union, j'ai créé la section féminine, mais avant, j'ai commencé comme coach en France, dans le nord de la France, par un petit club. J'ai grandi dans un club qu'on appellerait élite, ici en Belgique, hein, où on affrontait les meilleurs, Lens, Lille, Valenciennes, Boulogne.
Dans le football féminin ou non, masculin ?
Chez les garçons à l'époque.
Chez les garçons.
Et quand je suis arrivé en Belgique, je devais jouer dans un club comme joueur, un club d'Apsa chez les garçons, Irlande Auderghem. Et il s'avérait que là-bas, ils venaient de faire monter leur fille en deuxième nationale. Et la compétition était dure. Le coach, on a discuté, il avait besoin d'un peu d'expérience, quelqu'un qui avait peut-être un peu de bouteille en termes de coaching. Je l'ai aidé une saison, ensuite j'ai repris l'équipe. Ça s'est bien passé parce qu'on jouait face à Westerlo, face au Standard. Il fallait se maintenir, on réussissait. Et l'année Covid, donc l'année qui ne commence pas en fait,
ouais.
Je suis en contact avec David Van Rettenberg, qui est coach UEFA Pro à la Fédé, et qui me dit « Est-ce que ça t'intéresse de discuter avec l'Union pour faire la section féminine ?» Donc moi, je suis français, l'Union, je connais un peu, mais bon, je m'y intéresse, ça m'intéresse. Je vais à l'Union, je rencontre les gens à l'académie. Ils ont l'air motivés, on y va, et c'est comme ça que ça démarre, en fait.
D'accord, et c'est comme ça que démarre donc cette belle aventure.
De bouche à oreille, donc. Et très vite, on démarre au plus bas. Pendant longtemps, on a des discussions avec la fédération, parce qu'il y a des clubs comme Zult ou Charleroi qui avaient pu démarrer directement en Super League.
Alors justement, quelle est la structure de la compétition au niveau belge ?
En Belgique, il y a 6 divisions. Il y a la Super League où on retrouve 12 équipes. Même maintenant, ça va être 10, mais cette année, il y en avait 12. Ouais. La plupart sont des clubs pro, en fait. Mais il reste quand même des clubs comme le White Star, qui s'est créé tout seul, qui est un club 100% féminin, qui est monté en Super League, qui a des super résultats. La coach est une ancienne Red Flames, Audrey ils font un travail incroyable. Il y avait Alos, mais pour des raisons budgétaires, ils ont dû se retirer. Il y a la D1, la D2. Ensuite, on entre dans le provincial P1, P2, P3. Et nous, on a dû démarrer de P3.
D'accord.
Donc, il a fallu créer une équipe. Et à l'époque, je connaissais Aline, qui est une coach dans des clubs bruxellois, qui faisait beaucoup de filles. Et je lui ai dit, viens, on va faire les jeunes. Tu as démarré les jeunes. Elle est venue, elle a fait les U16. Et on a gagné le championnat de P3. On monte. On se retrouve en P1 parce que nos résultats étaient tellement impressionnants que nous faire végéter en P2, ça n'avait pas de sens. Et d'un seul coup, on crée l'équipe réserve pour intégrer les jeunes, justement, qui étaient là, qui ne pouvaient pas y rester. On fait nos U16, nos U13, nos U11. Donc en 2 ans, on est passé de rien Et c'était même pas une idée à l'époque. Hein. Si personne venait, il n'y avait pas de filles. On est passé de rien à 80 filles. On gagne le championnat en P1, l'équipe P2 monte. Les U16 qui jouent contre des garçons, les U13 aussi font de très gros championnats. Donc voilà, en soi, quand on regarde en arrière, le boulot est fait.
Super. Si je peux me permettre, le boulot est même plus que bien fait, parce qu'on on s'est côtoyé, on s'est vu. Et la motivation qu'affichait Thomas en arrivant, c'était énorme. Il faut savoir, bon, l'Académie de l'Union Saint-Gilloise, ce n'est pas la plus structurée de Belgique. Et donc, pour s'y retrouver là-dedans, il faut du cran. Déjà ça, donc pour installer ça, pour mettre une structure, et après pour sportivement encore gagner tous ces matchs, il faut le faire. C'est grand coup de chapeau à Thomas et à son équipe et son staff aussi, parce que qu'il n'est pas seul.
C'est vrai qu'on a su s'entourer, je l'ai dit, quand je parle d'Aline, ça a l'air, elle a juste fait les jeunes. Non, c'est... Il le dit, Alex, quand on parle de l'Union, il y a la vitrine et aujourd'hui c'est génial. À l'époque, c'est pas si évident pour les gens. Et quand on parle des filles, chez les filles, les clubs pro, il y a 2-3 clubs qui vont vous faire rêver. Anderlecht, OHL, parce que OHL est très bien structuré. Bon, allez, je mets Standard et Bruges peut-être un tout petit peu derrière chez les filles. Ces clubs-là font rêver. Pour le reste, c'est une bagarre. Pour aller chercher les 80 joueuses, ça a été des discussions tous les jours au téléphone. Et après, il y a toute la gestion qui va derrière. Et ça, nous, nos téléphones, ils sonnaient tous les soirs, on y était tout le temps. C'est un deuxième boulot,
D'accord. Il faut le savoir. Justement, puisque tu parles de deuxième boulot, j'imagine que les joueuses en Super League sont pas professionnelles ou elles sont semi-professionnelles.
Il y a beaucoup de différents contrats, des joueuses sous convention. Il y a quelques contrats pro, on commence. Il y a le Standard qui vient d'annoncer la professionnalisation de sa section. Et donc, les filles vont s'entraîner le matin. En fait, il faut savoir que les filles, la plupart dans tous les clubs, même les clubs de Super League, s'entraînent le soir. Et c'est prouvé que quand on bosse, quand on s'entraîne le soir, les organismes ne récupèrent pas aussi bien. Et on le voit au OHL, quand ils ont mis en place ça, les entraînements le matin ou le début d'après-midi, avec leurs jeunes, leurs résultats ont été exceptionnels. Anderlecht aussi, même si aujourd'hui Anderlecht, peut-être qu'ils doivent se redonner un coup de pouce, parce qu'il y avait Patrick OHL à l'époque et lui, il a fait un travail exceptionnel. Le Standard s'y met, donc c'est bien. On n'y est pas encore.
On entre sur la bonne voie. En tout cas, on commence à y aller.
Ouais, non, mais c'est parce qu'on en parlait un peu avant. Hein. Il faut que le foot féminin, c'est bien. C'est une belle image. On fait un bel événement, de beaux événements, et ça vous permet de aller mettre un peu de.
C'est l'affichage.
Un peu de gloss là sur l'image. Ça brille, c'est bien. Il faudrait que les clubs s'investissent tous les jours. Mais on en parlait.
Il y a un manque de volonté où on ne voit pas vraiment, peut-être, il n'y a pas de vision peut-être de ce point de vue-là côté des clubs.
Un peu ça, on peut comparer avec la nouvelle compétition américaine créée en parallèle de la MLS, qui est totalement indépendante. Ils ont recruté des gens hyper compétents en business development, en sponsoring, en com. Aujourd'hui, dans tous les matchs, vous regardez sur LinkedIn, tous les jours, c'est... 15 000, aujourd'hui on a fait 15 000 spectateurs, 17 000 partenariats avec XY, mais ça bosse dans ces clubs. Il y a des gens qui sont là pour trouver des sponsors, trouver de l'argent.
Oui, il faut savoir, aux États-Unis c'est déjà autre chose. Le foot féminin est quasiment à Paris en même temps que le soccer, donc le foot masculin. Et tu avais Maya Hamm à l'époque, que vous connaissez de nom aussi. Il y avait la Coupe du Monde dans 99, si je ne m'abuse, si je ne dis pas d'erreur. Je pense que le stade était plein.
Aux États-Unis. Aux États-Unis, à l'Orange Bowl. Il y a ça. Parce que c'est la fameuse photo où elle a marqué, elle enlève son maillot et elle a son. C'est une photo iconique.
Ça veut tout dire. Aux États-Unis, même en Chine aussi à l'époque, en Norvège, je pense. On a mis l'accent sur le développement du foot féminin. Et pour moi, il y a des pays d'Europe de l'Ouest qui ont complètement raté le train à ce moment-là.
Alors moi, je me posais une question.
Si je peux me permettre, je t'en prie. Continue. On a les Los Angeles Angels, qui n'existent pas depuis très très longtemps. Je pense, de mémoire, parce que je ne suis pas, j'ai pas rechecké, mais elles avaient vendu 15 000 abonnements avant d'avoir joué un match.
Il y a combien de clubs en Belgique vendent, même chez les hommes, 15 000 abonnements.
Mais ici, on parle avant d'avoir joué un match. Et il y a des stars du cinéma, du foot, d'autres sports qui se mettent derrière le foot féminin. Donc, d'un point de vue marketing, ça aide énormément. Mais j'ai l'impression que le public américain est beaucoup plus ouvert à ça aussi que, alors, c'est vrai que le public belge, par exemple.
Culturellement, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a, avant que le foot masculin prenne l'ampleur qu'il est en train de prendre, hein, on en parle suffisamment ici, il y avait toujours cette image, on dit aux États-Unis, on parle de soccer mom ou soccer dad, les gens qui vont encourager, souvent d'ailleurs leurs filles, qui pratiquent le foot à un jeune âge. Et puis ensuite, ben voilà, ça a pas forcément, ça s'est pas concrétisé tout de suite en une pratique globale au niveau masculin, et au niveau féminin, ça prend. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est une question, c'est culturel. Et en préparant l'émission, je vérifiais, je regardais. Pourtant, le foot féminin est quasiment apparu en même temps que le foot masculin. C'est-à-dire qu'en 1881, je regardais, il y a eu un match Angleterre-Écosse où il y avait 20 000 personnes. Il y a eu un France-Angleterre où c'était à Goodison Park, je crois, où il y a eu plus de 50 000 personnes. Et ensuite, il y a eu des entraves qui ont été mises. Alors, il y a eu aussi, c'était amusant de comparer ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Tom Hanks et Madonna, A League of Their Own, où c'était un film de baseball, et c'était une ligue de baseball créée pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que justement les hommes étaient au front, et pour divertir ceux qui étaient restés au pays, ben c'est des femmes qui jouaient au baseball. Et c'est un petit peu visiblement ce qui s'était passé en Europe de l'Ouest à ce moment-là. Il y avait des matchs féminins, mais une fois que les hommes sont rentrés, on a interdit ou on les a repoussés, même voire interdits de jeu. Et je disais qu'il y a eu en France, sous le régime de Pétain, une interdiction pure et dure et pure et simple du football féminin. Je me demande, si je me posais la question, parce que le sport féminin, en soi, ça attire du monde, même en dehors, je veux dire, des Jeux Olympiques. Alors, il y a les sports individuels, le tennis, par exemple. Actuellement, peut-être un petit peu moins le tennis féminin, mais dans les grandes heures des Navratilova, Evert, Steffi Graf, même encore les sœurs Williams, et on parle bien sûr ici en Belgique de Justine Hénin, Kim Clijsters, ça attire du monde. Bon, c'est un sport individuel. Sport collectif, j'ai même l'impression, alors peut-être parce que les résultats sont meilleurs, qu'en France, par exemple, on va être plus tenté de suivre le basket féminin ou le handball féminin que le foot féminin. Alors, est-ce que c'est un problème au niveau du foot? Est-ce qu'il y a un machisme particulier ou une...
Je ne sais pas s'il y a un machisme, mais en fait, quand le football féminin, ici en Europe de l'Ouest, a commencé à devenir un peu à la mode, on a demandé aux filles d'être polies, d'être fair-play, d'être sages, et surtout de ne pas tomber dans tous les abus qu'il y a eu chez les mecs. Mais je suis désolé, on regarde le foot parce qu'on veut des histoires, parce qu'on veut un peu de drame. Hein,
ouais,
on veut de ça. Je suis désolé, la joueuse de foot aujourd'hui la plus connue dans le monde, c'est Rapinoe. Qu'est-ce qu'elle a fait Rapinoe en pleine Coupe du Monde? Elle est arrivée devant la caméra, elle a critiqué le mec le plus puissant au monde, hein, Trump à l'époque. Et tout le monde avait un avis sur la question. Elle aurait dû, elle n'aurait pas dû. Mais elle a fait parler d'elle.
C'est ça, ça crée du buzz, ça fait parler.
C'est vrai, parce que finalement, bon, tous ceux qui regardent téléfoot, qu'est-ce qu'on a eu comme news du football féminin depuis un an? On a eu Lyon qui gagne la Ligue des Champions, et on a eu le problème avec les deux joueuses du PSG qui se tapent dessus, ou qui a eu en tous les cas quelque chose de criminel même entre elles. Ça, c'est la news. Et peut-être un petit peu de PSG-Lyon ou Lyon-PSG. Ouais. C'est les seules infos qu'on a pu percevoir. Je parle du football français, football féminin français. Ouais. Ça, c'est les infos qu'on a reçues. C'est ce que Thomas dit. C'est ça qui fait parler, justement, d'un sport, d'un cantonat, comme on l'évoquait hors antenne, là, tout de suite aussi.
Mais il n'y a pas de storytelling, en fait, autour du foot féminin, alors que vous pouvez en faire. Moi, cette année, il y a une fille qui faisait un podcast qui nous a suivis toute la saison. Alors, il sortira l'année prochaine. Mais il y a plein d'histoires, en fait. Vous nous suivez, il y a plein d'histoires. Hein. Moi, je passais mes soirées sur mon téléphone à régler des problèmes. Il n'y a pas moins d'histoires que chez les hommes.
Ouais.
Et donner la parole, aller tendre un micro à Tessa Woolhart, qui est un peu la superstar en Belgique aujourd'hui dans le foot féminin, elle va avoir des choses à dire. Hein. Mais personne lui tend. Et je disais, à la tribune, RTBF, qui en même temps, quand la saison tourne, il y a Cécile de Gernier. On parle 10 minutes de foot féminin, de temps en temps, éventuellement, mais dans l'émission, alors qu'on parle une heure de foot étranger. Donnez 15 minutes pour parler du championnat belge, les gens vont commencer à... C'est aussi le temps d'audience qu'on lui donne et ce qu'on y raconte. pour l'instant, raconte rien, ou raconte vaguement qu'Anderlecht a été champion pour la 8e fois ou
ouais, c'est ça, consécutive. Il y a peut-être ça aussi, le fait qu'il n'y ait pas de.
Et pourtant, il y a du matériel. Il y a du matériel, parce qu'on marque proportionnellement, je pense, plus de buts dans le foot féminin que dans le foot masculin par week-end.
Oui, oui.
Par match, je parle.
Oui, hein. Parce que l'écart est aussi oui. plus grand. Mais...
Non, d'accord, mais il y a moins de matchs aussi. Mais je pense que, comme le dit Thomas, dans la tribune, qu'est-ce qui t'empêche, en fait, d'avoir même une minute le but du week-end dans la Super League féminine. Tu vas, c'est comme ça que tu vas créer ton audience, que tu vas susciter un intérêt et que tu vas te rapprocher de tes fans latents ou tes fans potentiels oui. qui vont s'y intéresser tôt ou tard. Parce que tu à force de voir quelque chose comme ça, des buts, ou une action, ou une aile de pigeon, Rabona, que sais-je, tu vas susciter l'intérêt. Et ok, tous les téléspectateurs de la tribune ne vont pas courir au stade pour voir du foot féminin le week-end d'après, mais tu as un certain pourcentage, 5 à 10% peut-être, qui le fera.
Ouais,
qui n'a pas été confronté avant, et que sans ça ne serait pas confronté, ne serait pas chaud pour y aller.
Puis tu vas créer ta communauté, et ta communauté va engendrer plus de sponsoring, plus d'attrait, plus de ticketing, plus de merchandising autour des filles. Ben, c'est aussi simple que ça. Mais si en termes de visibilité, et c'est pas la faute des médias, hein, les clubs font pas toujours ce qu'il faut pour
ouais,
que ça marche.
Ça, y a aussi
c'est ce
ça.
Que je disais, en Belgique, s'il y a 10 clubs qui investissent vraiment dans le foot féminin, je mets Molenbeek à part parce qu'ils ont une section féminine à part et ils travaillent très bien, connaissant les gens là-bas, il y a 10 clubs qui travaillent bien en Belgique chez les filles et ils sont pas tous professionnels.
D'accord.
Donc en soi, ça devient vite compliqué.
Et alors, tu évoquais, Alex, tous les deux, le ticketing, le business, tout ce qui est le marketing. On a bien évidemment beaucoup, beaucoup moins de sommes qui sont investies dans le foot féminin. Il y a moins de retours aussi. Alors, c'est souvent la discussion où on entend des débats avec des joueuses qui disent « Ah oui, mais on devrait être payé autant que les hommes ». Alors, l'argument, mais qui est plus que recevable, parce qu'on est quand même dans un monde... capitaliste et que les joueurs sont payés aussi en fonction et beaucoup en fonction de ce qu'ils rapportent ou ce qu'ils peuvent potentiellement rapporter, donc il n'y a pas de raison intrinsèque à payer autant une femme qu'un homme si ça rapporte moins, mais pour autant on en parlait aussi un peu à l'antenne, il y a un intérêt, il pourrait y avoir un intérêt particulier notamment pour les sponsors à venir dans le foot féminin plus que se ruer sur le foot masculin.
Ah ben, encore une fois, il faut aller voir où ça marche. Et on le disait, aux États-Unis, ça marche parce qu'ils ont mis les efforts. Et il y a eu des rapports qui sont sortis l'année dernière, je crois, que j'avais lu ça, où les sponsors qui investissaient dans le foot féminin avaient plus de retours en termes économiques que ceux qui investissaient dans le foot masculin par rapport à la mise de départ. Ouais. Parce qu'en fait, bien sûr, il y a moins de sponsors, donc on vous voit tout de suite. Et aussi, les fans, peut-être, sont plus engagés. Ils ont plus... ils ont plus de gratitude, je vais dire, envers les gens qui vont investir là-dedans.
Ouais, ça,
mais il faut aller les chercher.
C'est ça.
Il faut analyser aussi quel est le profil du supporter. Parce qu'après, tu as des marques qui spécifiquement sponsorisent les femmes, sponsorisent spécifiquement les jeunes. Je pense à Clairefontaine, par exemple, à Lens. Il y a tout un sponsoring qui est mis en place pour accentuer les jeunes, pour toucher les jeunes. C'était la même chose avec Fristy dans le temps avec Bruges. Et Bruges a justement ses sponsors dedicated pour l'équipe féminine. C'était Pepsi.
Ils ont même une marque.
À un moment. C'est une marque, c'est le
Club YLA. Oui. Comme chez les jeunes, les 23, c'est le Club NXI. Ils ont développé une marque derrière Bruges. Ça va même plus loin que ça. La logique va même plus loin. Et par exemple, ING est une marque qui investit dans le foot féminin, au niveau de la Fédé, par exemple.
D'accord. Mais ici, pour revenir, il faut scinder aussi pour les revenus et pour les dépenses en termes de salaire, il faut scinder, ou en termes de primes, il faut scinder l'aspect club et l'aspect équipe nationale. En équipe nationale, tu as des pays qui ont pris la décision, comme les États-Unis de nouveau, de donner les mêmes primes de victoire ou de qualification ou de phase finale de Coupe du Monde. C'est la même prime aux hommes et aux femmes. Ouais. Après, tout est reversé dans un pot commun, etc.
Donc
tu as une volonté dans certains pays de le faire, mais en club, le business model belge n'est pas du tout au point, par exemple, pour payer les mêmes salaires aux joueuses qu'aux joueurs.
En Europe de l'Ouest, on comprend qu'aux États-Unis, c'est à part et qu'il y a un développement qui est sans doute plus professionnel et une vision peut-être autre. Est-ce que tu disais en Belgique, mais j'imagine que c'est pas très différent dans les autres pays de l'Europe de l'Ouest. Est-ce qu'il y a L'Allemagne peut-être se démarque un peu, parce qu'en Allemagne, il y a un peu plus de... Le football féminin est un peu plus valorisé.
On commence à retrouver, et je ne sais pas si c'est une bonne chose pour la compétition, mais bon, à voir. On va avoir des giga-clubs presque en foot féminin. On retrouve en Espagne le Barça, qui a fait son match devant 80 000 personnes, je crois. Ouais. En Allemagne, on a Wolfsburg, qui fonctionne très bien. Les Anglais commencent... Et on va traverser juste la Manche. Au Royaume-Uni, ils y vont, quoi. Et les clubs se structurent très sérieusement et ça fonctionne. Je crois qu'ils ont eu plus d'un million en droits télé. Alors, ça paraît tout petit par rapport à la Première Ligue. Mais en foot féminin, c'est déjà une chose. Et les filles ne demandent pas à être payées comme les hommes. Elles comprennent bien que
vous voulez avoir
le salaire de Haaland, il faut remplir un stade de 60 000. On n'y est pas. Mais encore une fois, il faut que les clubs ils investissent. Et en fait, on voit qu'au PSG, chez les filles, quand on voit les histoires, c'est pas plus glorieux. Lyon, bon, Ola, ça construit un truc fantastique. Mais c'est des giga-clubs. Ouais. Et autour, les compétitions sont très, 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 très... c'est pas homogène. Les championnats sont pas du tout homogènes.
Oui, c'est aussi peut-être le reproche qu'on peut faire parfois. Enfin, ceux qui suivent de loin disent « Ouais, bon, on va aller voir... » J'allais dire Juvisy, mais c'était un très bon club français de foot féminin. Mais quand il y a un 12-0 ou quelque chose comme ça, on dit bon, mais il n'y a pas de compétition, ça vaut rien.
Janice Kaiman a joué là, d'ailleurs, si je ne m'abuse.
Mais il y a quelques grands noms dans le football féminin. Marinette Pichon, je me souviens.
On explique à ces clubs que parce que ce n'est pas des clubs pro, ils n'arriveront pas à rester dans l'élite. Mais j'ai envie de dire pourquoi. Alex le disait, encore une fois, aux États-Unis, il y a des clubs qui ne sont pas attachés à des clubs de MLS. Alors oui, il y a des investisseurs derrière, mais qu'est-ce qui empêche Juvisy ou des clubs en Belgique comme le White Star ou Alost d'aller attirer des investisseurs, pas à l'échelle des grandes stars hollywoodiennes, mais rencontrer des femmes CEO qui vont avoir cet attrait et cette volonté. Mais encore une fois, il faut des gens au club pour le faire.
Alors, mais justement, quand tu parles de ces clubs-là en Belgique, on parle d'Alost et du White Star. Ce sont deux anciens clubs de D1 masculins, mais à Lost, tu as dans le basket Okapi All-Star qui fait une saison moyenne, et leur club de foot est en D4, de masculin je parle. Ouais. Donc tu as un potentiel sponsor, parce que finalement des sponsors par ville, ils veulent toucher le plus de monde possible. Donc tu as quelque chose, tu as un levier, et force est de constater que finalement ça ne marche pas. Mais je vais vite rebondir sur ce qu'on disait des clubs anglais. Qu'est-ce qui a été le catalyseur de l'attrait du football féminin en Angleterre, c'était l'Euro il y a 2 ans. Mmh. Et grâce à ça, je pense que quelques mois après, on avait 30% de plus de gens dans les stades pour aller voir du foot féminin, parce que les Lions, comme ils les appellent, ont fait d'excellents résultats et se sont mis en avant de la scène auprès du grand public en Angleterre. Les médias, le marketing, tout ça a joué aussi. Malgré la compétition organisée parfaitement outre-Manche.
Est-ce que ça, c'est aussi un commentaire que j'entends parfois, est-ce qu'on focalise pas trop sur le supporter masculin sans aller suffisamment chercher la supportrice? Tu parlais, c'était intéressant de dire il pourrait aller voir par exemple des femmes CEO, et au-delà de ça, je me dis est-ce que parce qu'on entend parfois les joueuses et les encadres, surtout les joueuses, se plaindre du fait qu'il n'y a pas la même exposition, certes, mais est-ce que la responsabilité de ce manque le manque d'attrait ou le manque de gens qui viennent au stade, elle repose pas non plus aussi sur les femmes supportrices, je veux dire par là. C'est-à-dire, je fais la provocation un petit peu à dessein, mais est-ce que il y a un comique américain qui s'appelle Bill Burr qui a toute une tirade sur le sport féminin. Et donc, en ces temps de parité et autres, et il dit très bien, mais pourquoi vous me demandez à moi? Moi, je suis le basket masculin depuis toujours, je suis le machin. Si je vous demande à vous dans la salle, dès que je parle de parité, vous êtes tous, les femmes, vous êtes toutes être d'accord pour ça, mais si je vous demande de citer 3 équipes de WNBA, vous n'êtes même pas capable. Si je vous demande de vous citer l'équipe de WNBA de votre ville, vous n'êtes pas capable. Alors, il faut créer l'envie et l'exposition, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'envie aussi est-ce qu'il ne faut pas targeter justement auprès du public féminin?
C'est comme partout, il faut aller chercher un public, etc. Maintenant, les femmes regardent le foot. Hein. Moi, mais c'est peut-être une vision aussi qu'on a en Belgique et en France. C'est, on va au stade et c'est vrai que c'est principalement masculin. Moi, j'avais été impressionné et même déstabilisé en soi. La première fois que je suis allé voir un match en Italie, c'était Inter-Lazio. et le nombre de femmes qu'il y avait avant le match, pendant le match, dans le stade. Alors, on n'était pas sur du 50-50, hein, je ne dis pas ça. Mais on sentait que c'était un pays de foot, que tout le monde, ça rythmait la vie des gens. Alors, peut-être aussi ici qu'on n'est pas non plus des grands pays de foot. Donc, ça rythme. Et donc, il faut aller chercher, il faut devenir des grands pays de foot. On le dit souvent en France, en Belgique, on n'est pas des grands pays de foot.
Ouais.
On n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Espagne, on n'est pas l'Angleterre. On peut y arriver. Mais pour ça, il faut s'investir. Et dans le foot féminin, il faut mettre des gens compétents. Et ça, aujourd'hui, le foot féminin en Belgique, parfois, ça sert surtout à recaser les copains ou ceux qui ne fonctionnent pas. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont aucune... Mais dans tous les clubs qui n'ont aucune expérience du foot féminin, et puis ils sont là, et puis ils vont tout révolutionner. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un public différent qui ont des attentes. Les joueuses, les supporters, les gens qui gravitent autour, les parents ont des attentes différentes. Il faut comprendre ça avant de dire qu'on va tout changer. On n'est pas beaucoup en Belgique à s'investir autant.
Ouais.
Et tous les clubs, je pense que beaucoup de clubs, voire la quasi-totalité en Belgique, tiennent sur des gens qui, comme le disait Alex, hein, mettent leur vie là-dedans. Littéralement, c'est pas une blague. Hein.
Ouais, c'est un investissement de tous les instants. Tu parlais du montant des droits télé qui ont été récolté pour le football féminin anglais. Ça me permet d'arriver sur ma question et sur le sujet qui suit. La Coupe du Monde féminine donc va se dérouler cet été. On a entendu, alors je crois que ça vient d'être à peu près réglé, en tout cas en France par exemple, où France Télévisions et M6 ont acheté les droits de diffusion. Il y a eu une difficulté, une grosse difficulté. Est-ce qu'on peut penser que c'est dû uniquement... Et quand je dis ça, j'imagine que la réponse est non, mais uniquement au décalage horaire, parce qu'il y a des matchs, bien évidemment, qui vont être à des horaires un peu plus compliqués pour nous, spectateurs en Europe de l'Ouest.
Une chaîne télé, on veut faire de l'audience. La compétition en Australie, du foot féminin, en pleine nuit, il va falloir aller chercher l'audience. Maintenant, je pense que la FIFA voulait se goinfrer.
Ouais.
Il faut dire que sur une compétition... Les télés, évidemment, au final, ils font les comptes, ils regardent qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que ça me rapporte. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ils ont dû trouver un accord.
Ouais, combien est-ce que je peux vendre mon encart publicitaire
exactement.
C'est à 2h du matin, je ne vais pas...
Et la solution, elle est un peu insoluble. Et on le voit, si ça commence à même bloquer au niveau des instances, donc les clubs, ils ne mettent pas du leur, les instances, ça devient vite compliqué. Hein, ça devient vite compliqué, alors que, Alex en parlait, l'euro en Angleterre, ça a cartonné quand même. Maintenant.
Mais oui, tu as un double problème. C'est l'attrait télévisuel.
Ouais.
Même si la précédente Coupe du Monde, elle était en France. Il ne faut pas oublier.
Ouais,
attention.
Ouais.
Tu as l'attrait visuel et tu as les annonceurs. Et si effectivement, à 4h du mat, tu n'as pas d'annonceur pour ton match, pourquoi est-ce qu'une chaîne TV irait acheter les droits? Ce n'est pas philanthropique non plus.
C'est ça.
Donc,
C'est la réalité du monde de l'économie.
Et ça, la FIFA devait se poser. Enfin, quand on attribue une compétition et qu'on veut développer un sport, j'ai rien contre l'Australie, hein,
ouais.
Mais on sait que quand on place une compétition en Australie, les supporters de foot, même si ça se développe dans beaucoup de pays, mais les supporters de foot féminin, on va les retrouver plus en Occident, en Amérique, etc., en Europe. Il faut aller les chercher.
Ouais.
Vous mettez ça en Australie, ça devient compliqué. Hein.
Du coup, je vais poser une question. Est-ce que la FIFA n'a pas été trop présomptueux dans l'égalité des primes? On sait qu'il y a des primes qui sont très similaires maintenant au football masculin. Est-ce que justement, d'un point de vue économique, est-ce que ce n'était pas une erreur peut-être, au lieu de le faire évoluer, de l'avoir révolutionné?
Moi, je me suis investi beaucoup les 6 dernières années dans le foot féminin, donc on ne va pas dire que je ne le défends pas. Mais dire aujourd'hui, dire on va donner la même prime à Wendy Renard, même si bon, ça reste quand même connu en France, et à Kylian Mbappé, bon, on ne parle pas de la même visibilité. Il aurait fallu faire grandir étape par étape. Par contre, aux États-Unis, où la question s'était posée encore une fois de l'égalité des primes, ça avait du sens, parce qu'en fait, on se rendait compte que les filles remplissaient les stades comme les hommes.
Mais là, tu parles intra-fédération. Ouais. Moi, je parle des primes FIFA envers les joueuses ou envers l'équipe nationale.
Ouais,
parce que c'est la FIFA qui doit récolter l'argent de toute façon.
Ouais.
T'as la billetterie, t'as le VIP, t'as le merchandising, t'as un tas de choses locales et sur place. Tu as leurs sponsors, leurs annonceurs. Mais après, de l'autre côté, il y a les coûts que ça engendre pour eux. Et voilà, ils ne veulent pas être break-even non plus en fin de tournoi. Donc, est-ce que cette révolution était peut-être trop tôt? Il fallait mieux évoluer?
Je ne sais pas. Après, on ne va pas les blâmer pour essayer. On ne va pas blâmer la FIFA d'avoir été ambitieuse, même si je pense que derrière la FIFA et surtout ses dirigeants, ce n'est pas des philanthropes non plus. Hein. Infantino, on sait comment il a été élu. C'est pas l'élégance,
non.
Mais on va pas les blâmer sur ce coup-là d'avoir été ambitieux, alors qu'il y a 10 minutes on disait nos clubs sont pas ambitieux.
Non, on est d'accord, mais il y a une certaine logique, parce que là finalement on trouve une solution, mais tu es un mois et demi avant le début du tournoi et tu n'as pas de diffuseur officiel pour la France, qui est une des meilleures équipes du monde.
Ouais, et t'as pas fait monter la sauce.
C'est dramatique, hein.
On le sait, avant une grande compétition on fait monter la sauce, on commence à parler des joueuses.
Oui, c'est ça, on peut pas teaser.
Exactement, les joueuses vont faire des interviews, machin. Et là, c'est le calme plat, quoi. C'est vraiment le calme plat.
Pas de téléfoot pour commencer et préparer le terrain non plus.
Ouais, voilà.
Parce qu'on est en été, donc.
On est en été, on parle plus des Desiderata de Kylian Mbappé que de la Coupe du Monde féminine. Ok, il fait plus de bruit, mais on aurait pu faire monter la sauce. Et en plus, en France, on avait un terreau fertile avec toutes les histoires en équipe de France, ouais, le limogeage de... Ah, franchement, là, en termes de storytelling, on était bien, pour le coup.
Et puis on a...
c'est une série Netflix, ouais, presque.
Ouais, mais je me demande d'ailleurs, en t'écoutant, tu parlais du podcast, est-ce que ce serait pas une solution de faire monter un peu l'envie ou la visibilité en faisant une série Netflix, parce qu'on voit qu'on réussit à faire du storytelling, à scénariser la saison de Formule 1, n'importe quelle saison de sport. Ça pourrait être une idée de pouvoir lancer ça. Bah, écoutez, on va y
réfléchir. Tous les coups, c'est en train de se faire quelque part.
Ouais,
il y a des équipes out of the box, comme les Angels, comme Barnsley en Angleterre, je pense aussi. Qui n'est pas au plus haut niveau du foot masculin, par exemple. Donc, tu as quelques chouettes histoires au niveau international. Je pense qu'en Belgique, ce ne serait pas idéal.
Et au foot, le premier reportage foot qui a fonctionné comme ça, c'était Sunderland. Sunderland Till I Die. Et je ne sais pas si les gens se souviennent, mais c'est deux relégations, quoi.
C'est
dramatique, il n'y a rien qui marche. Mais c'est l'histoire. En fait, on ne regarde même pas pour les résumés de match, on regarde pour l'histoire.
C'est ça, exactement.
On est avec notre popcorn et on regarde le drama, c'est rigolo. Mais aujourd'hui, les gens connaissent Sunderland. Moi, je connais des joueurs que jamais j'aurais connus. Non, mais oui, ça peut marcher. Et peut-être que ça se prépare d'ailleurs. Mais après,
je suis sûr que oui.
La Coupe du Monde, justement, donc elle va bientôt débuter. On va revenir sur le sportif. Le grand favori, ça reste les États-Unis, tenant du titre, 9e participation. C'est l'équipe ultime, c'est le Brésil du foot féminin, encore que le Brésil aussi et reste le Brésil.
Ouais, mais encore que le Brésil dernièrement sur les grandes compétitions, c'est plus ça. Il y a d'autres rocks qui sont venus, mais ouais, les États-Unis c'est l'ogre incontestable. Les joueuses, c'est des rockstars. C'est des rockstars. Les filles Rapinoe, mais on pouvait parler d'Alex Morgan. Maintenant la gardienne Solo qui a arrêté aller à la télé. Ouais, les filles, c'est des vrais rockstars, quoi.
Oui, et d'ailleurs,
coach, elle est emblématique. Enfin, même l'ancienne coach. Il y avait un reportage d'ailleurs sur Netflix aussi à son sujet.
Megan Rapinoe, elle est dans un dessin animé avec Zlatan Ibrahimovic. Ouais, ils ont fait un dessin animé sur. Je sais que mes enfants regardaient
ça.
C'est
des excellents footballeurs aussi. Attention, c'est pas des rockstars. Mais parce que les filles, c'est des pros et c'est aussi lié à leur formation. Elles sont à l'université américaine. Moi, j'ai eu la chance d'envoyer... quand j'étais à Irlande d'Orgam, il y a une fille qui, l'année suivante, elle est partie. Elle a eu une bourse en université américaine. Elle est revenue à cause du Covid. Et du coup, ils annulaient sa bourse après un an. Juste la transformation physique de la fille qui avait passé un an en université américaine, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Elle avait envoyé des vidéos sur Instagram, etc. Le sport universitaire américain, comme on le connaît,
c'est la structure et la philosophie.
T'as des universités aux États-Unis qui accueillent 120 000 personnes pour un match de jeunes dans des stades dont tu n'imagines même pas l'existence ici en Europe.
La fille, elle est revenue de là-bas. Et c'est vrai qu'on revient ici, on voit les structures qui sont données parfois aux filles. Ouais, t'es un peu triste, quoi.
Ouais, ça, c'est
difficile. T'as un vieux banc gym dans un vieux vestiaire.
Ouais, si t'as un banc gym.
Quoi ?
Si tu as un banc gym.
Ah, ouais.
Bon, donc les favoris pour cette Coupe du Monde, on va mettre les Américaines.
Traditionnelles outsiders derrière, les Françaises, les Allemandes.
Les Allemandes, les Anglaises.
Ouais, les Anglaises, les Japonaises ont toujours performé, les Suédoises aussi. Parce qu'au final, quand on arrive en quart, en demi, c'est sur un match. Hein, on n'est jamais à l'abri que...
C'est la beauté du...
Ouais, c'est ça.
La beauté de ce sport. Eh ben écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé avec passion et de nous avoir beaucoup intéressé sur le football féminin. On va suivre attentivement, voir comment ça évolue ici en Belgique. Et puis, eh ben, il y a la Coupe du Monde. On vous donnera régulièrement des nouvelles de cette Coupe du Monde. Et je propose qu'on passe maintenant à la minute Sportimize, peut-être avec toi, Alex. Tu vas reprendre ta respiration. Je vais lancer un petit générique, ça te permettra de... Alors, Alex, de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
De droit TV. Donc, j'ai envie d'un peu revenir dans le passé. Il y a 40 ans, on avait des matchs de fou sur les chaînes publiques.
Ouais.
Un match qui était filmé par week-end. Ça a évolué en deux, ça a évolué en chaîne payante, ça a évolué vers des Digibox, ça a évolué vers des matchs de Champions League maintenant sur des chaînes aussi privées. Et dernièrement, on a vu aux États-Unis avec Messi, même Apple s'est mis au sport en diffusant à la MLS sur Apple TV. Forcément, on a ça, on a Disney, on a d'autres plateformes qui diffusent de plus en plus du sport en différé ou en direct. Et maintenant, on a Netflix qui s'y met aussi et qui est en train de faire un projet pilote avec du golf.
Ah.
Donc là, on touche et le direct. Avec ces tournois de golf et aussi le fait d'avoir Netflix qui est tout simplement un diffuseur en fait de séries à la demande quand on en a envie, mais qui se met au direct et qui se met au sport parce qu'ils ne veulent pas laisser les Amazon Prime où est-ce qu'on a la NFL ou Apple TV où est-ce qu'on a la MLS et d'autres sports les laisser filer. Donc Netflix se met aussi et là je me demande quid de la prochaine année ou des deux prochaines années, est-ce que Netflix va tenter un coup, peut-être dans le football européen, et s'approprier les droits d'une ligue ou de plusieurs matchs, comme ils le font aux États-Unis actuellement via d'autres chaînes.
En France, c'est ce qui s'est passé, c'est avec la Ligue 1 qui est en partie sur Amazon Prime.
Par exemple, tu as un match, je pense, le dimanche soir.
Là, le
tu as aussi le tennis de Roland-Garros.
Ouais.
Tu as un match, le match nocturne. Donc, de plus en plus, mais là, on parle évidemment de football.
Ouais, ouais.
Et ça reste le sport le plus médiatisé et aussi le plus cher après la NFL. Et donc, je me demande, Netflix, quelle sera leur stratégie donc, affaire à suivre dans les prochains mois, j'ai envie de dire ça.
Bah, écoute, ouais, peut-être un nouvel acteur dans les droits de diffusion. C'est un sujet qui évolue tout le temps.
Ça nous ferait du bien en France, parce qu'on a des problèmes.
Ouais. Bah, y avait eu le... Comment il s'appelait ? C'est cette chaîne qui a fait...
Mediapro. Ouais,
Mediapro.
Qui avait fait faillite après 4 mois.
Ça, c'était
quelque
chose. C'était
un drame pour de nombreux clubs. D'ailleurs, Bordeaux n'en est toujours pas relevé. Hein.
Ouais. Ouais. Ouais,
et là, il vise le milliard, mais...
Ouais,
ça n'arrivera jamais.
Il faut qu'il... Oui.
Ça va être chaud. Mais tu as besoin de ça pour un peu remettre la Ligue 1 dans le top 5 européen. Parce que les autres évoluent, l'Angleterre est inaccessible, mais tu as l'Italie qui évolue énormément les dernières années. On en avait parlé il y a quelques mois, le président de Naples qui, lui, veut vendre en exclusivité à une chaîne tout ce qui se passe autour du club en semaine. Donc,
c'est les fameux reportages sur Manchester City, etc., qui sont excellents. Vous regardez, c'est sur Amazon, je crois, les Manchester City, Arsenal, Tottenham avec Mourinho. Mais le documentaire avec le Tottenham de Mourinho, qu'on aime ou pas Mourinho, c'est exceptionnel. Mais ils vous vendent les à côté. Et c'est l'histoire de la Formule 1. C'est comme ça qu'ils ont relancé aussi l'attrait de la Formule 1. C'est par les à côté, ce que les gens veulent voir.
C'est l'histoire, c'est les coulisses. C'est tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est en plus.
Et les plateformes sont très fortes là-dessus.
Justement, Netflix, quelles cartes ont-ils jouées ?
Ouais, et c'est Dele Alli qui peut se souvenir de ce reportage puisqu'il lui a dit ses quatre vérités en lui disant si tu travailles pas bien, ça ira pas pour toi.
Il avait raison.
Ouais, et il est remplaçant en Turquie, je crois. Hein. Ouais. On le salue. Si vous écoutez, ben merci Alex pour cette minute Sportimize. On va parler de l'actualité chaude, un peu plus chaude. Est-ce que l'un d'entre vous était au stade samedi pour l'adieu d'Eden Hazard?
J'ai déjà été hier, donc je passais mon tour.
T'as passé ton tour. En tout cas, Eden Hazard a dit au revoir aux fans. Le match en lui-même, la Ligue des, il faut, ses qualifications sont un peu, c'est un peu pénible cette année à cette période après une saison aussi compliquée, hein, enfin aussi longue, aussi. On a l'impression que, et puis on a eu le feu d'artifice de Manchester City, on aurait envie de rester là-dessus. Et puis il faut, on a encore une semaine un peu. Ça va être compliqué un peu pour les joueurs.
Ils oui, là, tu parles de la perception du public, mais je pense que la Belgique s'est un peu fait avoir
par l'arbitre,
par nonchalance, ouais. Peut-être, parce que bon, tu fais un face à l'Autriche, faut pas déconner non plus quoi. C'est, ouais. Demain, c'est laborieux, c'est vraiment laborieux. Donc, ok, tu n'as pas De Bruyne, ok, tu n'as pas Hazard, mais tu as d'autres joueurs talentueux, tu as d'autres porteurs dans cette équipe qui peuvent ou qui auraient dû faire quelque chose. Et là, tu ne le fais pas. Donc, tu avais bien commencé en Suède. Et là, face à l'Autriche, tu te prends les pieds dans le tapis. Donc,
Mais les qualifications, en général, hein, on constate que de plus en plus, les matchs de qualification... En fait, comme c'est très facile de se qualifier, allez, les coupes du monde, c'est un peu compliqué. On a vu des sorties de route de l'Italie là, dans les deux dernières éditions. Mais globalement, il faut y aller très fort pour ne pas se qualifier quand on est une grande nation de foot. Ce qui fait que les joueurs prennent ça par-dessus la manche. Et encore plus. Plus en fin de saison, hein, donc ça donne des matchs très pénibles.
Surtout que l'Euro, tu as 24 qualifiés.
Oui, c'est ça, non, c'est ce que tu disais.
Il faut le faire exprès pour
y aller. Ouais. Surtout quand tu es dans les grandes équipes, parce que par le système de repêchage avec la Ligue des Nations, c'est quasi automatique. Ben on va passer à la Ligue des Nations alors, qui était plus intéressante. Là aussi, c'était un peu plus compliqué d'avoir de mobiliser un peu l'intérêt de tout le monde. Après, pour une phase finale, il y avait un trophée, certes, mais c'était... Moi, j'avais même oublié que c'était maintenant. J'y ai repensé il y a 15 jours, mais je veux dire, ça faisait pas partie des dates que j'avais cochées dans mon calendrier. Et alors, Alex, hier, t'étais au stade, puis as assisté à cette finale Espagne-Croatie. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ?
À Rotterdam, donc déjà, ce n'est pas tous les ans, j'ai envie de dire, qu'on aura une finale d'une Coupe européenne si proche de Bruxelles ou de la Belgique. Donc oui, effectivement, j'avais eu des tickets pour la finale sans savoir qui allait la jouer. Quelque part, j'espérais peut-être que les Pays-Bas à domicile, ça aurait été une superbe ambiance, mais j'ai été très surpris, agréablement surpris par les Croates qui ont mis une ambiance de malade pendant tout le match et même après, qui ont encore remercié et applaudi leurs joueurs pendant des minutes entières, tandis qu'ils avaient perdu au tir au but après un 0-0. Il y a eu des occasions... Par moment, c'était agréable, ça reste un 0-0.
Ouais. Belle séance de tir au but, par contre.
Effectivement, à un moment, tu t'attends à ce que le match soit plié et puis Livakovic. C'était Lalat d'ailleurs. Empêche l'Espagne de remporter, donc c'était partie remise.
C'est la charnière française de l'Espagne qui a failli.
Mais la Croatie, c'est vraiment un pays de foot, quoi. Quand on regarde les joueurs, c'est là aussi où. En Belgique, je trouve qu'on pourrait aussi s'en inspirer. La passion, la ferveur qui existe dans ce pays. Enfin, on ne se rend pas compte, c'est un tout petit pays. Ils ont fait finale de Coupe du Monde, demi-finale de Coupe du Monde. Là, les mecs, ils étaient morts de faim parce qu'ils voulaient gagner un trophée. C'était la dernière de Modric. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte des joueurs que ce pays sort régulièrement. Donc là, on a les yeux sur Modric, mais Kovacic, Brozovic.
Brozovic, c'est...
C'est impressionnant, quoi.
Perisic,
Perisic hier encore exceptionnel. Je trouve. Ouais. Mais tu as cette culture, mais tu as cette haine, tu as cette envie, tu as cet amour du blason, tu as cette fierté. Il ferait tout. Et c'est cette ancienne mentalité slave aussi qu'on a vu avec l'étoile rouge de Belgrade, la Yougoslavie dans le temps. C'est cette ferveur et cette envie. Et ça, effectivement, tu n'as pas du tout en Belgique. Tu vas au Qatar avec la Belgique, c'est une partie de tourisme. Avec la Croatie, tu as un focus à 200% sur un objectif, c'est gagner le prochain match.
Alors que c'est gros, je crois qu'il y a plus d'habitants en Belgique qu'en Croatie. Ouais. Le vivier est quand même intéressant en Belgique. Tu regardes le 11 de départ, mais c'est aussi ça la différence. Les mecs, en face, ils en veulent, quoi. Ils veulent tout gagner. Allez, en Belgique, dans l'équipe nationale aujourd'hui, il y a De Bruyne qui est un vrai champion. Courtois, son passage au Real. Mais les Croates, les anciens Slaves, t'as l'impression qu'ils sont animés par ça, cette arène, vouloir toujours la victoire.
Ils le sont, mais dans cette équipe aussi, en Belgique, tu as beaucoup de talent. tu as tous les petits footballeurs des Agora, ici à Bruxelles ou à Anvers. Mais avec ça, tu as cette nonchalance. Ouais. Tandis qu'à la Croatie, tu ne l'as pas.
Il y a on parlait de culture, la culture de foot.
Pour gagner un match, hein.
C'est ça, peu comme je compare ça avec l'Uruguay, qui est hyper impressionnante aussi. C'est un pays qui a 3-4 millions d'habitants et qui, on se demande comment. Je parle même pas de l'Islande, là, c'est une anomalie de réussir à qualifier une équipe dans un pays de 300 000 habitants, de qualifier une équipe pour la Coupe du Monde. Mais des petits pays comme ça qui réussissent si bien, alors que le vivier paraît plus limité.
Mais l'Islande, c'est nouveau ce pays de conjoncture. Comme on a eu la Roumanie, on a eu la Bulgarie. Tu as des équipes comme ça, elles apparaissent, elles redisparaissent et elles vont réapparaître dans 25 ans. La Croatie, ils sont présents à chaque rendez-vous. Et ça a commencé à l'Euro 96.
Ouais.
Et depuis lors, c'est une présence très forte dans tous les tournois, ou quasi tous.
Ouais, si tu regardes leur place, en 98, c'est la fameuse demi-finale et Thuram. Tu as finale contre la France, demi-finale encore. Ils éliminent le Brésil alors que tout le monde, Neymar était en feu et il tire au but, une action qui vient de nulle part. Mais parce que les mecs sont animés par la victoire. Ouais. Et on a aussi un peu le problème en France. On n'est pas... On n'a pas cette même hargne, on n'est pas animé, mais parce qu'aussi on vit dans un autre confort, et heureusement, parce qu'on a de belles vies pour la plupart des gens.
Ouais, ça...
c'est lié, hein, pareil pour les pays d'Amérique du Sud, les mecs vivent de ça, c'est vraiment leur carte pour sortir.
Après, la Croatie, pour y avoir été, c'est pas le pays le plus pauvre de l'Est, on va dire, ça, au contraire même. C'est...
Mais il y a cette mentalité qui reste ancrée, quoi.
Il y a cette envie, cet amour du blason, du pays, la fierté de défendre même son pays. Tu as des joueurs totalement inconnus qui arrivent en équipe nationale croate et qui font des bons matchs et qui, comme ça, forcent un transfert.
Ce qui est étonnant parfois, parce que, alors, pour le coup, il faut leur rendre honneur, pour avoir été en contact de beaucoup de gens à la Fédé belge. Les mecs aiment vraiment la Belgique, ils sont vraiment animés, ils veulent bien travailler. Moi qui passe mes diplômes avec Jean-Louis Losfeld à la Fédé, Chris Van Der Hagen, sont des mecs, ils sont animés par ça. Ils sont animés, ils regardent tous les matchs, ils réfléchissent tout le temps. Mais aussi, peut-être aussi qu'il faudra un jour un sélectionneur belge à la tête de la Belgique, mais ça c'est un autre débat.
Tu en as eu pas mal, hein. Tu as toujours cette mentalité. Dès qu'un entraîneur flamand fait de très bons résultats en club, il est propulsé comme favori pour reprendre l'équipe nationale. On a eu Anne van Azenbroek, Frankie Dury, on a eu Jackie Matheson dans le temps. Il y a eu un tas d'entraîneurs, mais tu as un autre problème, c'est que, et ça c'était avant même que toi tu arrives en Belgique ou même que tu t'intéresses au foot, tu as toujours eu ce problème communautaire. Tu as un Georges Lekens, c'est pas bon d'un côté, tu as un Robert Wasseij qui a fait d'excellents résultats, c'est pas bon en Flandre, même s'il a été entraîneur de Waterskay et même d'autres clubs flamands. Donc tu as toujours ce problème communautaire et c'est ça qu'ils ont voulu éviter les dernières années.
C'est un nom à ne pas prononcer en présence de supporters du Paris Saint-Germain.
Tout à fait. Ben oui, mais ça c'est un autre problème.
C'est ça. Mais c'est quoi, d'être supporter du Paris Saint-Germain? C'est un autre problème.
Mais je veux dire, oui, ce problème communautaire en Belgique, tu ne l'as pas en Croatie, par exemple.
Ce que tu n'as pas au sein de la Fédé, en tout cas, je ne le ressens pas, c'est les mecs travaillent en symbiose et ils sont vraiment animés par cet amour, vouloir faire gagner la Belgique. Ça, il faut quand même leur rendre honneur.
Eh ben, vous allez me permettre de rebondir sur le prochain et dernier sujet. C'est l'Euro Espoir qui commence donc d'ici peu. La Belgique est présente avec deux têtes d'affiche plutôt. Qu'on s'attendait peut-être pas à retrouver là, c'est Deka, Charles de Ketelaar, qu'on attendait plus haut encore et qui, il a l'âge qu'il a, il a fait la saison qu'il a faite à Milan, c'est-à-dire pas terrible, et donc il intègre l'équipe espoir. Et il y a sur un autre mode vraiment, c'est Openda qui lui était avec les Diables ce week-end et qui est en accord avec tout le monde et a été libéré de l'équipe A pour pouvoir participer justement à l'Euro espoir. Il y a Zeno De Bast aussi, il y a quelques joueurs qui ont déjà connu la sélection. Est-ce que ils sont dans un groupe avec les Pays-Bas, le Portugal et la Géorgie?
Très chaud, hein.
C'est compliqué. En plus, au Portugal, il y a deux excellents joueurs, hein, des stars, Nuno Tavares et Vitinha. Non, je déconne, Blaise, calme-toi si tu nous écoutes. Deux joueurs de l'OM. Vous avez un petit avis sur les chances de la Belgique de sortir j'imagine que si Openda est dans le coup, c'est que on mise quand même, on essaye de.
Il ne faut pas oublier qu'une demi-finale à 7 euros espoir est synonyme d'une place aux Jeux Olympiques en 2024. Donc ça, c'est déjà un premier facteur. La Belgique avait réussi son coup en 2007 pour les JO 2008 à Pékin. Et ici, je trouve ça très malin, justement, d'aller chercher Openda, d'aller chercher d'autres joueurs sélectionnables ou même potentiellement titulaires presque, j'ai envie de dire, en équipe première belge, pour les mettre avec l'espoir et pour faire vivre ce groupe et pour faire avancer cette équipe espoir aussi. Et voilà, et en tant que joueur, tu préfères jouer un tournoi espoir et pourquoi pas atteindre une demi-finale ou même une finale, soyons fous, que d'aller jouer contre la Finlande, l'Azerbaïdjan ou que sais-je avec
l'équipe première.
Ouais. La réflexion sur les JO, c'est d'autant plus intéressant que on commence à voir arriver un peu d'ambiance, d'ambition derrière les JO, qui était un truc, le football aux JO, il y a quelques années, tout le monde s'en fichait. Hein. Ouais. Par exemple, les gens ont découvert dernièrement que Messi avait gagné les JO, en fait, avec l'Argentine. mais voilà, il y a Mbappé qui veut les faire absolument, et c'est presque important pour sa prolongation. Donc ça devient, il va voir tout notre truc, donc c'est important de se qualifier. Mais en face, les Pays-Bas, on sait que c'est un des meilleurs pays formateurs en termes de foot. Et le Portugal, on sait qu'ils sortent des mecs tout le temps. Maintenant, voilà, la Belgique reste quand même un pays où il y a des académies de qualité. Bon, il y a Anderlecht, sort des pros ultra régulièrement. Et puis après, on a Bruges, on a la Gantoise, Genk, qui commencent, qui se sont structurés. On a vu les résultats en Challenger Pro League. Hein. En fait, dans les playoffs en Challenger Pro League, il y avait beaucoup d'académies. Il y a des clubs qui travaillent bien et des bons joueurs. On n'est pas encore au niveau des Pays-Bas ou du Portugal, ou évidemment aux Pays-Bas.
Ou de la France.
Mais le vivier est différent, mais aux Pays-Bas, les mecs de 23 ans, ils jouent déjà en équipe première au PSV, à l'Ajax, à Twente.
Il y aura la France, effectivement, qui n'avait pas pu aligner une équipe compétitive au mondial des moins de 20 ans, ce qui me permet de terminer sur l'équipe d'Israël, qui sera aussi là après son formidable parcours à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui les avait vus terminer 3e. Ils sont dans un groupe compliqué, on peut pas dire autre chose, puisqu'ils ont, outre la République tchèque, l'Allemagne et l'Angleterre, les Anglais étaient champions d'Europe l'an passé, c'était en U19, et à noter la présence de 5 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, mais également la présence, on en a parlé quelques fois ici, d'Oscar Glour, le joueur qui a été transféré à Salzbourg pour 7 millions d'euros, 18 ans, ce qui est assez rare pour un joueur israélien de cet âge. Il y a d'autres stars, il y a Moudric, je sais pas si on peut déjà, enfin en tout cas c'est des noms. Côté français, j'ai vu qu'il y avait Kaloulou, Kefren Turan, Ryan Cherki. Et côté anglais, on a Smith Rowe et Harwood Bellis qui ont laissé des bons souvenirs. Et côté allemand, peut-être la plus grande star, moi je dirais, c'est Moukoko, le joueur de Dortmund. Ça peut être sympa.
Ouais, et puis les Anglais, c'est un très gros morceau. Les Anglais, il y a quelques années, ça fait 10 ans qu'ils ont entrepris
tout.
Une grosse réflexion sur leur formation, parce qu'il y avait des mecs comme Ferdinand, qui, je me souviens, sur la BBC, disait c'est une honte, il n'y a pas de joueurs anglais dans le championnat. Et ils ont commencé un gros travail là-dessus, et ça paye maintenant. Et la formation, c'est long.
Eh bien, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Il est 20h57. On aimerait que ça dure encore plus longtemps, mais il faut rendre l'antenne. Merci beaucoup, Thomas. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Le studio, tu connais l'adresse. Le studio, t'es ouvert. Et c'est un plaisir d'avoir parlé avec toi de foot féminin et de tout le reste. Mais vraiment, c'est sincère. L'invitation est le studio. Les portes du studio sont ouvertes. Tu es invité. Alex, toi, bien sûr, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir encore intéressés sur les sujets marketing et business intéressants. Et bien, quant à nous, on se retrouve bientôt. Est-ce que la semaine prochaine, on va voir. On vous tiendra informé. En tout cas, merci beaucoup et bonne semaine.